Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
En 2016, disparaissait un écrivain que tous les Français connaissent grâce à ses nombreux romans et par le fait que certains de ses ouvrages furent adaptés au cinéma et à la télévision. Il entra à l'Académie française sans doute en raison d'une fort belle écriture, mais aussi pour nous avoir ouvert les portes du monde que ses voyages lui faisaient arpenter et pour avoir porté haut des valeurs que notre société contemporaine semble de plus en plus ignorer. Il fut le témoin nostalgique d'une époque révolue. Merci à Christian Autier de nous offrir cette belle biographie intitulée « Les mondes de Michel Dion » est parue aux éditions Séguier. Christian Autier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous-même, écrivain, essayiste, journaliste, vous êtes attaché à l'écrivain Michel Dion. Pourquoi ?
Tout simplement pour payer mes dettes, j'allais dire. C'est un écrivain que j'ai lu, je le raconte au début du roman, dans les premiers, un chapitre qui s'appelle « Première rencontre », que j'ai lu à l'âge de 20 ans environ, et qui ne m'a jamais quitté. Et par la suite, j'ai eu la chance de le rencontrer, devenu journaliste, et de le côtoyer un petit peu régulièrement pendant 20 ans, et de découvrir que l'homme valait l'œuvre, ce qui est finalement assez rare. Enfin, il arrive que les écrivains correspondent à l'idée qu'on peut se faire d'eux, qu'on peut imaginer à travers leurs livres, mais lui, c'était le cas. Il était aussi généreux, lumineux, drôle, intelligent que ses livres sensuels, que ses livres l'étaient. Et donc voilà, c'est un écrivain qui a beaucoup, c'est un de mes écrivains français favoris du XXe siècle.
Et qui est arrivé au bon moment peut-être. Vous dites à un moment donné que vous l'avez ignoré au profit de Jacques Laurent, d'autres, parce qu'il vous paraissait plus sage, moins brillant que les autres. Mmh. Et puis il est arrivé à une époque, je pourrais dire, une époque où tout vous paraissait étouffant, la société, c'était les années
90, début des années 90.
Oui.
Mais disons qu'il a peut-être un peu souffert dans la mythologie des hussards que j'évoque aussi dans le livre, puisque donc il appartenait au quatuor historique Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent, Michel Dion. Dion était effectivement celui qui était un peu plus en retrait. Nimier avait ce côté flamboyant, l'allure, le côté James Dean avec sa disparition dans l'accident de voiture. La légende de Blondin, les dérives éthyliques, ses calembours, ses citations. Jacques Laurent, un auteur à succès, qui roulait en Cadillac, qui avait des aventures avec des actrices. Et Michel Dion, qui a beaucoup vécu à l'étranger, paraissait un peu plus, comme ça, c'est son image publique, un peu plus fade. C'était le gentleman farmer replié en Irlande. Mais en fait, quand on se penche ensuite dans ses livres et qu'on ne s'arrête pas à la surface sociale, on découvre un écrivain d'une richesse et peut-être le plus, j'allais dire, le plus classique au sens positif du terme, c'est-à-dire il est dans la famille Stendhal-Giono, et peut-être, paradoxalement, celui qui restera littérairement parmi les quatre hussards historiques.
Oui, alors quand je dis il arrivait au bon moment, dans sa lecture du moins, nous étouffions dans notre époque, la Méditerranée commençait à craquer sous la révélation des affaires et des forfaitures, Bernard Tapie était brandi comme un modèle, la guerre du Golfe, première guerre humanitaire, ceci entre guillemets bien sûr, d'un genre inédit, annonciatrice d'un nouvel ordre mondial, censé régner sur les débris du communisme, nous a pris notamment l'expression frappe chirurgicale, dont nous pouvons observer les manifestations, etc. etc. C'était quand même une époque un peu moche, effectivement.
Oui, enfin moi je suis assez d'un tempérament nostalgique et mes livres sont assez nostalgiques, mais en même temps je suis tout de même lucide sur les époques qu'on avait traversées. Ce début des années 90, et même enfin, la suite probablement, mais enfin, était quand même une drôle d'ambiance. La fin du deuxième septennat de François Mitterrand est polluée par les affaires, la corruption, la révélation de son passé vichyste, il y a la crise économique qui s'aggrave, il y a cette situation internationale qui est très chaotique, la guerre en Irak, la chute du communisme, la guerre en Yougoslavie. C'était une période très oppressante et c'est vrai que se réfugier dans la littérature et dans les livres de Michel Dion, c'était...
un renversement des valeurs, justement, que lui, c'est ce que vous avez peut-être aimé également retrouver chez lui, non ? Il s'opposait aux valeurs marchandes, à ces nouvelles idées de la médiocrité, enfin médiocre.
Oui, je crois que c'est Paul Morand, que Dion a bien connu et tous deux s'estimaient beaucoup, qui disait les îles sont les derniers refuges des aristocrates. Michel Dion a pratiqué ça un peu en allant vivre longtemps en Grèce et en se reculant, enfin en prenant du recul par rapport à son pays. pays et à la marche du monde et en s'inventant des entre guillemets des royaumes comme ça à l'écart du chaos du monde, tout en étant évidemment en contact. Il était passionné par les choses qui se passaient, que ce soit en politique, en littérature. C'est quelqu'un de très curieux, mais qui savait mettre du recul entre lui et le bruit du monde, peut-être aussi parce qu'il avait été plus engagé à d'autres périodes de sa vie.
Oui. On parlera justement de cet exil entre guillemets. Il a apporté une sorte de panache, un peu comme tous les hussards. C'était ça aussi, non ? Une sorte d'élégance.
Oui, c'était à la fois dans ses livres, comme je disais, dans sa façon d'être. C'était quelqu'un qui était effectivement très élégant, qui avait beaucoup de classe, un humour pince sans rire, et une
l'élégance grande... du cœur. Hein,
oui, aussi, voilà. C'est quelqu'un de très pudique, mais qui était très fidèle et très, très généreux en amitié. Et j'évoque dans un chapitre tous les coups de pouce et les soutiens qu'il a apportés à de jeunes écrivains, dès qu'il a été, entre guillemets, un notable des lettres, c'est-à-dire dès qu'il est entré à l'académie, qu'il a fait partie d'éminents jurys littéraires comme l'Interallié, le Prix Nimier, il a beaucoup contribué à soutenir des écrivains dès leur début, dès leur premier livre. Je cite par exemple Emmanuel Carrère, Jean Rollin, mais aussi Patrick Besson, Éric Nehoff, beaucoup de talents, parfois très différents de son univers. Jean Rollin, il n'y a pas grand-chose à voir peut-être l'écriture de Michel Léon. Jean Rollin venait de la gauche prolétarienne maoïste et voilà, Michel Léon a aimé ses livres et l'a soutenu dès le début. Emmanuel Carrère aussi, il y a très peu littérairement aucun point commun entre ce qu'il pouvait écrire, mais il avait cette capacité d'admiration et justement de reconnaître des écrivains très différents de son propre univers.
Vous qu'il avait rencontré, quel genre de caractère avait-il en fait ? Attendez, je vais vous citer une phrase. Il parle d'un personnage de son roman. Il distribuait à la folie des biens qui ne laissent pas de traces. La générosité, la bonté, le courage, la gaieté, l'intelligence de la vie. C'est un peu lui, ça ?
Oui, je pense, oui. Oui, ce qui était assez fascinant quand on rencontrait Michel Léon, c'est donc, pour résumer, c'est quelqu'un qui a connu intimement Charles Maurras, Paul Morand, Jacques Chardonne, Coco Chanel, qui a travaillé avec Billy Wilder, qui a rencontré Hitchcock à Hollywood, Audrey Hepburn, qui a travaillé avec John Ford, qui a connu tous les grands écrivains de son temps dans tous les domaines. Et c'est quelqu'un qui était absolument pas blasé, qui s'intéressait beaucoup à la jeunesse. Moi, je l'ai vu dans des circonstances où il demandait à des jeunes gens de 17 ans, 18 ans, qu'est-ce qu'ils comptaient faire. Enfin, il s'intéressait vraiment aux autres. Et ça, c'était très surprenant de prime abord, parce qu'on pouvait penser que moi j'ai connu Michel Léon en 1995, donc il avait un âge assez avancé. Il est né en 1917,
mais justement
il n'était absolument pas blasé, donc ça c'est remarquable.
Parce que je me demande en vous écoutant si ça n'a pas été la deuxième période de sa vie, parce que pour moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de désenchantement dans la première.
Moi c'est ce qui m'a intéressé, ce qui m'a séduit dans ses livres, c'est que on l'a souvent baptisé, la critique l'avait baptisé de l'expression romancier du bonheur, mais comme il le relevait lui-même, c'est assez paradoxal parce que ses livres finissent souvent très mal. Et moi ce qui m'a beaucoup plu aussi dans ses romans, c'est effectivement il y a un éloge de la vie, des plaisirs de la vie, la civilisation méditerranéenne, du soleil, des femmes, tout un tas de choses, mais il y a aussi un profond désenchantement chez lui, un désenchantement qui est à la fois sur la marche du monde, mais qui a aussi des accents très intimes, très personnels. Il y a ces histoires d'amour dans ses romans finissent plutôt mal.
On parlerait aussi des femmes.
Et il y a des failles qu'il a exposées dans quelques récits autobiographiques et qui sont venues très tard dans...
Vous pouvez en parler là, parce que je trouve quand même que c'est la clé, sans faire de la psychanalyse sauvage, la clé quand même peut-être de son rapport aux femmes, le traumatisme familial qu'il y a eu, si vous voulez en parler. Il y a eu la mort du père, certes, mais il y a eu également un comportement de la mère assez étonnant.
Oui, c'est ce qu'il évoque dans un récit autobiographique qui s'appelle La chambre de ton père, qui est sorti en 2004. Donc il a beaucoup attendu avant d'évoquer son enfance et les souvenirs très personnels. Même si par préciosité, je crois que le livre n'est pas présenté comme un récit, mais enfin tout est vrai, comme il le disait dans les interviews. Et il y a donc la mort très précoce de son père, qui était fonctionnaire représentant de l'État français à Monaco. Et donc, Michel Léon est âgé de 13 ans. Et ensuite, effectivement, là, il y a un secret. Bon, je laisse le plaisir aux auditeurs et futurs lecteurs de ce livre de le découvrir. Mais il y a un secret scellé à ce moment-là, ou un peu avant, entre sa mère et lui. Et voilà, donc il y a eu des traumatismes et des fêlures qui l'ont profondément imprégné. Mais bon, en même temps, ça ne l'a pas non plus empêché de vivre et de bien vivre.
De bien vivre, du moins, oui, au début, non. Alors justement, parlons-en, parce que je trouve que ses débuts dans la vie ont été plutôt tumultueux dans sa vie même. Bon, une vie nocturne, un peu errante, je crois, dans ses comportements avec les femmes. Oh, maintenant, il serait au pilori. je ris, mais quand même, on en parlera, parce que ça, c'est les propos par rapport aux femmes. J'imagine qu'ensuite, avec l'âge, avec la réflexion, on évolue. Mais il a eu aussi des échecs littéraires, quand même. Enfin, pas une reconnaissance du grand public.
Oui, ça a mis beaucoup de temps à venir. Bon, déjà, ses débuts dans la vie ont été marqués par la défaite de juin 40 qu'il a vécu sous l'uniforme.
Ça a été
quand même, pour cette génération-là, un traumatisme. Surtout que Michel Léon venait d'un milieu très nationaliste et patriote. Mmh. Donc, voir son pays s'effondrer et entre guillemets, se coucher devant l'occupant allemand, ça a été un traumatisme. Et ensuite, après la libération, ses débuts dans la carrière, donc de journaliste et d'écrivain. Bon, il sort son premier roman en août 44, ce qui n'était pas le meilleur moment pour être remarqué. Il publie ses deux ou trois premiers romans, il les reniera. Il refusera de les publier. Son premier roman, il considère que c'est Je ne veux jamais l'oublier, qui est publié en 1950, mais effectivement, ses premiers écrits.
Donc vous dites que c'est un de ses meilleurs.
Pour moi, et bizarrement, moi j'ai fait beaucoup de. Chaque fois que je rencontre un lecteur de Déon, on échange nos souvenirs. Et bizarrement, j'ai remarqué que c'est souvent par ce premier roman que les lecteurs de Déon ont commencé et qui comptent parmi ses favoris. Alors que Michel Léon ne l'aimait guère, même s'il l'a réécrit à plusieurs reprises et pour le coup, il ne l'a pas effacé sa bibliographie. Donc je crois qu'il entretenait avec ce roman des rapports très ambivalents, du fait notamment du personnage principal, cette héroïne qui a été une femme qui a beaucoup compté dans sa vie. Et donc je crois que c'est pour ça qu'il avait. Mais oui, donc ses débuts dans la littérature ont été très, très modestes. Il avait un succès d'estime, quelques critiques l'ont repéré très tôt, mais il a mis beaucoup de temps pour avoir un succès public qui viendra réellement avec Les Poneys Sauvages. Qui a le prix Interallié en 1970.
Alors, quand je parle de débuts tumultueux, je parle aussi de ses prises de position dans le milieu politique. Et effectivement, bon, là, il est entré à l'Action française à 15 ans. Bon, erreur de jeunesse. Et son père spirituel, on dit l'image du père, sans doute, c'était Maurras.
Oui.
Évidemment, il y avait un anti-germanisme avant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est ce que prônait Maurras, mais il y avait également un antisémitisme.
Oui. Pour l'Action française, faut se rappeler que dans les années 30, l'entre-deux-guerres, les années 20 et les années 30, c'est un mouvement qui séduit beaucoup de jeunes intellectuels par non-conformisme, par refus de la République bourgeoise, de la droite et de la gauche. Ils rêvent d'un roi comme ça qui viendrait sauver un peu, qui rétablirait la France dans sa grandeur au-delà des partis politiques.
Et une envie de s'opposer.
Et pour Michel Déon, ce qui est amusant, il raconte ça dans un de ses livres de souvenirs. C'est qu'il adhère à l'Action française le 7 février 34, après la fameuse journée d'émeute qui a failli renverser la République. Et c'est un de ses camarades du lycée Jean Sailly qui vient le voir et qui lui dit « J'espère que cette fois tu as compris ». Et ce camarade s'appelle François Perrier, qui sera le futur acteur.
Alors là,
mais il y a eu beaucoup de gens de cette génération, des gens qui ont beaucoup évolué, Maurice Clavel, Pierre Boutan, Raoul Girardet, qui ont été séduits par le non-conformisme de l'AF et l'Action française, donc, qui est un mouvement politique, mais aussi un journal où sévissait Charles Maurras, mais aussi Léon Daudet, qui a été un des plus grands critiques littéraires de la première moitié du XXe siècle, qui a beaucoup appuyé, contribué à la reconnaissance de Proust et de Céline. Et aussi Jacques Bainville, qui était un historien sans doute trop tôt disparu, qui est mort en 1936, mais qui a été un très très grand historien. Et donc Michel Léon est séduit, comme beaucoup de gens de sa génération, par cette brillance. Cet éclat intellectuel. Et donc il va devenir secrétaire de rédaction de l'AF sous l'occupation, qui est replié en zone libre à Lyon. Et à sa décharge, lui, pour le coup, aura été totalement exempt durant toute sa vie du poison de l'antisémitisme, de toute idée raciste.
Contrairement à Maurras.
Contrairement à Maurras qui lui a développé de manière assez... Bon, là aussi, c'est les subtilités qui, oui. au regard de l'histoire et de la période...
Un antisémitisme d'État, c'est
oui,
ce
voilà, deviennent un peu anecdotiques au regard des conséquences qu'elles avaient. Mais Maurras... Enfin, il y a une phrase de De Gaulle que je cite, et donc j'avais évoqué avec Michel Léon, qui est très forte, peut-être sur Maurras. C'est, il est devenu fou à force d'avoir eu raison, aurait dit De Gaulle. Et c'est un peu ça, puisque Maurras, quand même, qui est quand même stupéfiant, et Maurras et l'Action française, soutiennent le gouvernement de Vichy, et donc, par-delà la collaboration, alors qu'ils sont empreints d'un anti-germanisme et qu'ils ne seront absolument pas un soutien du nazisme et du racisme biologique, mais ils vont tout de même soutenir
le régime de Vichy.
Ce régime de Vichy et les gens qui occupent, alors qu'ils sont des nationalistes intégraux, qui, leur slogan est la France seule, donc on touche la contradiction et la faute politique de l'Action française sous l'occupation. Et en même temps, ce qui est ça qui est, si je puis dire maintenant, cette phrase...
Oui, mais De Gaulle, oui, je comprends pas la phrase, pour le coup.
Bah parce que Maurras...
D'avoir eu raison.
Bah oui, parce qu'il était... Parce qu'ils étaient durant l'entre-deux-guerres anti-allemands, anti-nazis,
oui,
et
d'accord.
qu'ils avaient vu le danger allemand, et que quand le danger allemand était là, ils ont pas réagi. Enfin, du moins pas tous, puisqu'il faut dire aussi que l'Action française, quand même, a alimenté aussi beaucoup la première résistance, et qu'un jeune homme comme Daniel Cordier, quand il s'en va à Londres en juin 1940, il a 20 ans, et c'est un pur produit de l'Action française, il est alors très maurassien. Oui. Ensuite, à Londres, il va découvrir d'autres choses, et il va, entre guillemets, virer sa cutie. Mais l'Action française a fourni aussi, elle a fourni des gens attentistes et vichysois, elle a fourni des rangs des ultras de la collaboration, mais qui avaient rompu avec elle depuis longtemps. Je pense, si on prend la collaboration intellectuelle, Brasillac ou Rebatté, elle va fournir aussi des résistants, Raoul Girardet, par exemple, le futur grand historien qui est du dernier convoi de Buchenwald, Daniel Cordier, le colonel Rémy, énormément de grands résistants qui étaient des monarchistes.
Oui. Alors, bon. L'après-guerre, bon, finalement, elle n'est pas si heureuse pour lui. Il ne la vit pas comme une période euphorique. Vous rappelez que déjà, il portait l'uniforme quand la France a plié devant l'Allemagne. On a l'impression que là, il était un petit peu perdu.
Oui, en même temps, bon, ce sont les années 50, il vit essentiellement à Paris, bon, il voyage aussi un peu en Espagne, en Italie, il fait des séjours, mais à Paris, il a une vie un peu dissolue de jeune homme.
Lui a enlevé sa carte de presse pendant 2 ans.
Pendant 2 ans, juste à l'immédiate, mais qui l'empêchait pas de travailler dans la presse, en fait. Mais dans les années 50, il profite malgré tout de la vie germano-pratine et des Nuits de Saint-Germain, dont il a donné des reflets dans certains de ses livres, dont un qui s'intitule Le bien-nommé Les gens de la nuit. Il se lit, il est ami avec Antoine Blondin, avec André Frégnaud, il sort beaucoup.
Alors c'était ses maîtres déjà.
Donc Blondin c'était son ami et Frégnaud un peu leur aîné, un maître bienveillant avec eux. Il avait arrêté d'écrire et il soutenait plutôt les jeunes écrivains. Et donc il y a cette vie un peu dissolue, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de boîtes de nuit. Et puis en même temps, déjà un gros travail, ce qui ne l'empêchait pas d'écrire des récits de voyage, ses romans, de collaborer dans la presse. Mais bon, c'est vrai que ça ne dure qu'un temps et après... À partir de 1959, à la fin des années 50, il rencontre celle qui va devenir son épouse et il va se calmer un peu. L'âge mûr arrive et il a moins la tête aux bêtises.
Voilà, nous allons faire une pause musicale et nous reprenons ensuite. Thank you.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Nous retrouvons Christian Autier et Michel Déon. Michel Déon, dont vous faites une biographie fort intéressante, Christian Autier, une biographie qui éclaire aussi certains aspects de la vie de Michel Déon et de l'œuvre. Michel Déon, donc, l'ouvrage que vous avez écrit, c'est Les Mondes de Michel Déon. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a des tranches de vie. En fait, en vous lisant et en suivant un peu ce personnage, on parlera aussi de ses voyages. Mais revenons à ces personnes qui ont fait et qui l'ont entouré, avec qui il s'est lié d'amitié, d'admiration aussi. Évidemment, je pense à ce groupe que Bernard Franck, un grand ami de François Sagan, a appelé les Hussards. Bernard Franck, qui ne faisait pas du tout partie de cette épopée-là. Il me semble qu'il était plutôt sartrien, non, à un moment donné.
À ce moment-là, oui, mais bizarrement, quelques années plus tard, justement, Sartre va très vite, Sartre va le répudier, si je puis dire, et Bernard Franck va être considéré comme un Hussard.
Il avait une chronique dans le Nouvel Obs, non ?
Dans le Nouvel Obs, dans le Matin, il a beaucoup écrit dans le Matin de Paris, mais il a eu le prix Nimier.
Il a eu le prix Nimier, comme quoi. Et les Hussards n'étaient pas rancuniers.
Non.
Alors oui, les Hussards, parlons-en. C'était un groupe, certains s'entendaient comme larrons en foire, si j'ose dire, s'entendaient, ils avaient des points communs. D'autres ne s'entendaient pas, mais enfin c'est normal dans un groupe. Qu'est-ce qui les réunissait finalement ?
Déjà, donc, comme vous le disiez, c'est Bernard Franck qui a inventé cette formule dans un article Grognard et Hussard qui est paru dans les Temps modernes de Sartre en 1953. Et d'ailleurs, Déon n'est pas cité dans sa liste. En gros, il les accuse d'être des écrivains fascistes, désinvoltes, légers, puis finalement fascistes. Et il cite notamment Roger Nimier, Antoine Blondin, Jacques Laurent. Donc l'histoire littéraire va retenir ou va agglomérer Déon dans le quatuor fondateur. Mais il y avait bien d'autres écrivains, notamment Kléber Hédin, qui était leur ami à tous, Félicien Marceau, bien d'autres.
Kléber Hédin, qui habitait dans la région.
Oui, qui a vécu la fin de sa vie, les 20 dernières années, à la Bourdette, dans le Loin de Toulouse. Et en fait, donc, ce qu'on a appelé l'esprit hussard, ou ce qui a été la mythologie hussard, c'était des jeunes gens qui, en l'immédiat après-guerre, justement, contrairement à l'inverse de Sartre ou de Camus, refusent le roman engagé, le roman à thèse, les grandes positions de principe, les pétitions, l'humanisme facile. Mais cette étiquette...
C'était quand même, pardon, je vous trompe, c'était la grande époque où Sartre était omnipotent.
Oui, bien sûr.
Et où on disait, il vaut mieux avoir tort avec Sartre que de raison avec Aron.
Oui, Camus, oui. mais ce qui est amusant, enfin moi ce qui m'a intéressé derrière cette mythologie hussarde, puisque bon, par exemple, Michel Déon n'aimait guère cette étiquette, et en fait, les quatre d'ailleurs historiques se sont très rarement vus ensemble. Par exemple, Déon était très ami avec Blondin, Blondin était extrêmement ami avec Nimier, Nimier et Déon ne pouvaient pas se voir, Laurent s'entendait à peu près avec Blondin et Déon, mais n'aimait guère Nimier. Donc bon, c'était pour le quatuor fondateur, c'était un peu effectivement une invention. Mais donc c'était des gens, voilà, il y avait le mythe ensuite des nuits parisiennes, de l'amitié, de l'alcool, des dérives éthyliques. Mais sur le désengagement, moi ce qui m'avait toujours frappé dès que j'ai lu les Hussards, c'est que bon, leur désengagement était quand même orienté. Ça voulait dire le désengagé, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas engagés à gauche et qu'il y avait chez eux donc un refus effectivement du sartrisme, du communisme.
Mais ce que vous dites, si vous permettez, nous sommes, alors vous dites de droite, oui, mais pas la droite de la banque, de l'Amérique, de la race ou de l'ordre moral, plutôt une droite mousquetaire, anarchisante, romanesque, rêveuse, rieuse, frondeuse. Voilà. Et il disait, Jacques Laurent, nous sommes pour le singulier et contre le pluriel. Mmh. Ça m'a plu, ça.
Oui, en fait, bon, il y avait une sorte de fond. Comme je disais, Michel Déon, lui, était, et Jacques Laurent aussi, Jacques Laurent qui était formé à l'Action française également, sont des monarchistes de cœur, Nimier est une sorte d'anarcho-gaulliste, contrairement aux autres qui n'étaient absolument pas gaullistes. Voilà, il y avait Blondin, lui aussi, avait un côté assez anarchisant, donc qui refuse l'ordre, l'engagement, mais ce qui ne les empêche pas d'avoir par ailleurs des opinions politiques très arrêtées. Ils étaient, à l'exception de Nimier, tous très anti-gaullistes, et ils se sont tous retrouvés, par exemple, ce que j'évoque dans la défense de l'Algérie française.
Oui. Il y a malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas chez eux quand même, chez ceux que vous avez cités, une forme de désenchantement aussi?
Oui, bien sûr, parce que, ben, par exemple, moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu dans les romans d'Antoine Blondin, c'est que d'Antoine Blondin, il y avait effectivement le l'ivrogne farceur, facétieux, qui faisait des blagues, qui était riche en calembours et en panache, et en même temps, il y avait un petit enfant totalement désespéré qui noyait son chagrin dans l'alcool et dans une vie totalement décalée, marginale. Donc ce sont de désenchantés. Nimier aussi est quand même taraudé par une forme de désespoir. Bon, moi, j'irais pas dire, contrairement à certains critiques, que son accident de voiture était une sorte de suicide déguisé, mais voilà, il y avait chez Nimier on n'imaginait pas de toute façon Nimier devenir un vieillard respectable à l'inverse de Michel Léon et finir à l'Académie française.
Oui, alors, mais justement, en vous lisant, je vraiment, ce que j'aime, justement, c'est quand un livre ouvre également des portes et des réflexions. Je me suis dit, mais dans le fond, ce désenchantement, finalement, ça paralyse peut-être un peu. Et d'où l'attraction peut-être de Sartre, qui, lui, avec coup de pétitions, de manifs, etc., amenait les jeunes dans les rues. Je me suis dit, c'est peut-être là le problème, non?
Oui, puis en même temps, ce qu'on appelle, enfin, où on parle de désenchantement, on pourrait évoquer le sentiment de nostalgie ou de mélancolie, ça fait quand même, c'est quand même un excellent matériau, j'allais dire, pour les écrivains, pour les romanciers. Pour citer un des plus grands, toute l'œuvre de Proust baigne dans ces tonalités-là. Et chez Michel Léon, ce sentiment de désenchantement a imprégné son œuvre, mais ne l'a pas empêché. Moi, c'est toujours ce qui m'a fasciné aussi chez lui. Je répète souvent dans le livre, il a mêlé enchantement et désenchantement. C'est qu'il y a un versant de son œuvre qui est vraiment très lumineux et très, très hédoniste, où il nous fait découvrir des pays, des horizons, des paysages, des moments de vie absolument merveilleux.
Ça, c'est dans l'autre partie de sa vie, me semble.
Non, dès les années 50, justement, quand il décrit, ou dans les débuts des années 60, quand il décrit la splendeur qui était encore l'Espagne ou la Grèce, avant le tourisme de masse.
Parce que moi, j'en étais encore à cette époque où il dit, après la guerre, la victoire de 45, qui aurait dû voir exploser la joie, la liberté retrouvée, semblait retomber sur nous comme une chape de plomb. Nous étions entrés dans un système étouffant où la moindre volonté de faire circuler de l'air déchaînait des foudres. L'holocauste des Juifs dans les camps de la mort, l'angoisse levée par les deux premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, la Russie dévastée, l'Allemagne en ruine, la Pologne pour laquelle nous avions déclaré la guerre, blessée à mort, le Pacifique devenu un vaste cimetière nippo-américain, pesait sur les cœurs. C'est vrai quand même, on parle de victoire, mais enfin quel champ de ruines.
Oui, et puis par ailleurs, moi, ce que j'évoque aussi dans un chapitre, ce qui est bizarrement, Michel Léon, donc, il a été suspendu, privé de carte de presse pendant 2 ans, mais ce qui n'empêchait pas de travailler dans les journaux pour avoir été à l'Action française sous l'occupation. Jacques Laurent lui a fait un peu de prison quelques semaines, parce qu'il était, lui, à Vichy, il avait un petit rôle de fonctionnaire à Vichy. Mais Nimier et Blondin étaient au STO, Nimier a fait son service à l'âge de 20 ans dans l'armée de la Libération. Mais bizarrement, les hussards et leurs apparentés, même s'ils n'ont pas collaboré, se sont sentis comme ils ont pris le parti des vaincus de 45 et des épurés, des écrivains épurés.
Oui.
Et c'est ça aussi qui veut dire, je pense, qu'il exprime dans cet extrait, c'est qu'en 1945, ils se sentent pas, ils n'ont pas été résistants, à part donc Nimier qui a combattu dans l'armée française à partir de 45, mais ils prennent le parti des réprouvés, d'où leur fréquentation. Ils veulent réhabiliter leurs aînés qui eux étaient réellement collaborationnistes, Morand, Chardonne, Céline, et c'est ça qui en même temps qui les rend, je trouve, assez sympathiques, parce que plutôt que d'endosser le rôle de résistant de la dernière heure, ils prennent la défense des réprouvés, des gens qui ont été condamnés alors qu'ils auraient pu très bien s'en passer.
Nous aussi, nous aurions pu être ces hérétiques, songe après-guerre, Nimier, Laurent ou Léon. Le choix entre l'honneur et le déshonneur, la gloire et l'infamie ne tenait qu'à un fil selon eux. Je pense au film Lacombe Lucien. Je sais pas si vous
Oui, on retrouve ça beaucoup dans leurs écrits. Il y a un roman de Michel Léon, moi j'aime beaucoup La Corrida, qui met en scène comme ça un homme traqué qui n'a pas été collaborateur, mais qui s'exile et qui qui épousent malgré tout le destin d'un homme qui aurait été pourchassé en France. Jacques Laurent a écrit un merveilleux petit roman qui s'appelle Le Petit Canard dans les années 50, où il montre qu'on peut s'engager dans prendre l'uniforme allemand par déception amoureuse, parce que sa petite amie, la petite amie du héros l'a trompé avec un soldat polonais. Donc voilà, il y a cette idée effectivement que les destins se jouent parfois pas grand chose et que dès on dit mes amis de mes camarades de l'Action française sous l'occupation, je pouvais dîner avec un qui était dans la résistance le soir et un autre qui écrivait dans un journal collaborationniste le lendemain. Donc voilà, c'était les temps, ils ont connu ces temps où les destins effectivement parfois se jouent à peu de choses.
Et après, il y a eu aussi la guerre d'Algérie. Alors là, il a eu des prises de position politique. Il était pour l'Algérie française et il y avait un anti-gaullisme très net chez lui. Et en particulier, que moi j'ai noté quand il parle des harkis à juste titre, et ça a été notre honte à tous. Et je vais retrouver, moi, le texte d'un télégramme de Louis Jox au sujet de supplétifs qui avaient été débarqués en métropole et qui, vous connaissez, et qu'on a rapatrié en Algérie en n'ignorant pas que ce renvoi signait leur arrêt de mort. Oui, et là, un anti-gaullisme qui va nuancer plus tard.
Oui, mais moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, j'avais étudié ça naguère. C'est que Michel Déon appartient à un petit groupe d'intellectuels, c'est un mouvement, une sensibilité qui est assez peu connue, puisque donc dans les clichés qu'on a sur l'Algérie française, c'est les partisans de l'Algérie française étaient là pour maintenir l'ordre colonial, l'injustice, la ségrégation, l'exploitation. Michel Déon et d'autres, je cite Philippe Ariès, Raoul Girardet ou son ami Jacques Laurent, ont une vision de l'Algérie française très très singulière, c'est-à-dire que pour un groupe d'intellectuels, il s'agit de trouver une troisième voie, donc ce que devait être au départ la fameuse intégration du général de Gaulle, une troisième voie entre capitalisme et socialisme, c'est-à-dire développer, faire une, entre guillemets, une France-Algérie et repartir sur de nouvelles bases et trouver, développer, sortir les colonies du tiers-monde, donner l'égalité des droits. Et c'est ça qui est très intéressant, je cite des passages totalement étonnants, que ce soit dans les romans ou dans les essais qu'il a pu consacrer à la question. Michel Déon a des mots très durs sur le colonialisme et les gros colons. Et un de ses personnages, il fait dire un de ses personnages qui est un peu son porte-parole dans Les Poneys Sauvages, s'ils ne veulent pas comprendre, on leur fera comprendre, on en fusillera quelques-uns et ils apprendront à partager.
Donc, mais en reconnaissant que tous les colons n'étaient pas de gros colons
bien sûr.
Exploitants.
Au-delà de cet autre cliché, mais ça évidemment eux qui l'avaient extrêmement intégré, ou comme sur la torture, je cite des passages très, très intéressants dans un livre de Michel Déon a consacré qui s'appelle L'armée d'Algérie et la pacification, sur la torture. Il y a une position beaucoup plus fine évidemment et nuancée que ce qu'on peut imaginer pour un partisan d'Algérie française.
Oui. Oui, il a une vision de l'avenir. Déon décrit un monde nouveau fondé sur l'industrie et la technique, assez pessimiste. Au nom du progrès, l'aliénation des masses qui est garantie par des choses simples, des chansons idiotes, des jeux imbéciles, des femmes nues. L'insécurité générale permet de gouverner par la peur. La libération sexuelle donne le sentiment d'une liberté sans entrave. La détestation du passé exonère le présent de toute critique. Une humanité nouvelle se profile, complètement abrutie, incapable de supporter le silence et la solitude, dressée à hurler en foule.
Ça, ce qui est très intéressant, c'est que je résume en quelque sorte le propos d'un livre qu'il a écrit en 1967 qui s'appelle Mégalonose. Et tout ce qu'il décrit dans ce livre, c'est pour ça qu'il l'avait fait rééditer en
l'an 2000.
Ça a été publié en 1967. Ouais. L'abrutissement par la télévision, il fallait le voir venir, parce qu'à l'époque, on avait aujourd'hui les émissions de l'ORTF de 1967, c'est-à-dire Pierre Dumayet et consorts, on serait plutôt contents.
Oui. C'est un fait. Et alors, de même que j'ai noté à un moment dans une dernière phrase d'un chapitre, la gauche et la droite ne sont plus des notions abstraites, ce sont des cages, des prisons. J'ai trouvé que c'est un propos très macronien.
Oui, mais ça vient aussi, là, je pense, en partie de sa sensibilité monarchiste, c'est-à-dire que les hussards, malgré tout, ce que j'essaie d'expliquer, c'est peut-être difficile à faire comprendre à des gens qui ont l'esprit partisan, mais ils étaient pas de gauche, mais ils étaient pas de la droite qu'on connaît, oui, ou qu'on a connu non plus. Donc c'était des gens assez inclassables, on les appelait anarchistes de droite, monarchistes, ce qu'on veut, mais c'était surtout des gens libres, des hommes libres, et qui ne s'intéressaient pas aux individus en fonction de leur étiquette ou de leurs convictions. C'est pour ça qu'ils avaient accueilli parmi eux Bernard Franck, qui venait de chez Sartre et qui se considérait lui comme un journaliste de gauche, qui a toujours écrit dans la presse de gauche, que Michel Léon adorait et soutenait beaucoup Jean Rollin, comme je disais, qui venait du maoïsme.
Oui, c'est ça.
Il ne considérait pas les hommes en fonction de leur étiquette ou de leur croyance religieuse ou autre.
On va parler de l'écrivain, mais auparavant, juste un instant de musique.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, je suis toujours en compagnie de Christian Autier et nous parlons bien sûr de Michel Léon, puisque Christian Autier a écrit une biographie de cet auteur qui nous a quittés en 2016, de cet académicien, de ce grand auteur. Le titre de cette biographie est « Les mondes » de Michel Léon. Alors, moi, je disais « Les mondes », il y a des époques, et les mondes, oui, parce que c'était un voyageur. Mais avant, on pourrait parler peut-être des voyages, parce qu'on a l'impression qu'ils ont alimenté également son écriture. Mais parlons de l'écrivain. On a beaucoup parlé de la politique, de son engagement, de ses valeurs. L'écrivain, bon, à la Libération, évidemment, il a écrit. Il a écrit, si j'ai bien compris, dans des revues, il a écrit des nouvelles. peu de succès, des succès d'estime, et en particulier avec le balcon de Spetsai, je ne sais pas comment on dit, édité chez Gallimard. Bon, mais pas de succès populaire et alimentaire, disons qu'il lui fallait qu'il écrive dans des revues, évidemment. Et puis, je ne dirais pas que c'est le miracle, le fait de se marier, je pense que ça a dû... Il s'est marié à 40 ans, bon, il a bien réfléchi. Il a eu une fille et s'est installé en Grèce. Et peut-être que c'est de là qu'est parti. Il s'est posé, non ?
Oui. Le début des années 60 donc, correspond à son installation en Grèce. Effectivement, il a deux enfants assez rapidement avec son épouse Chantal. Et il va travailler à partir de 1964-65 à sa grande œuvre. Il est conscient qu'il est dans, il a donc qu'à la quarantaine, c'est maintenant, l'écrivain est dans la plénitude de ses moyens, à la fois physiques et j'allais dire mentaux, et donc s'il a une grande œuvre à faire, c'est maintenant, et il va passer 4-5 ans sur un gros roman qui s'appelle Les Poneys Sauvages. Qui va sortir en 1970, qui va avoir le prix Interallié et qui va être son premier vraiment grand succès. Par ailleurs, ce livre va être suivi 3 ans plus tard par un Taxi Move qui est aussi un énorme succès public, qui a le grand prix du roman de l'Académie française. Ça va être aussi un peu plus tard, il publie Le Jeune Homme Vert et Les 20 ans du Jeune Homme Vert qui sont deux best-sellers. Il entre à l'Académie, bref, c'est à ce moment-là, et c'est Les Poneys Sauvages qui a servi, j'allais dire, qui a activé le succès en enfin, alors que Michel Léon a là approché des 50 ans. Mais oui, effectivement, c'est son installation en Grèce et sa vie, le fait de s'installer, de fonder une famille qui a permis l'éclosion de ce gros roman.
Oui, parce qu'à partir de 70, alors il y a eu les Poneys Sauvages, bien sûr, il y a eu un Taxi Mauve, il y a eu Le Jeune Homme Vert, enfin voilà, des livres qui ont fait date dans son œuvre.
Oui, qui sont rentrés dans la bibliothèque des Français, qui étaient en livre de poche, qui étaient dans les clubs du livre, qui ont été adaptés au cinéma pour un Taxi Mauve, à la télévision pour Les Poneys Sauvages et Le Jeune Homme Vert. Donc ce sont ces livres-là qui ont fait de Michel Léon un auteur entre guillemets populaire.
Voilà, oui, et dont les écrits, dont les ouvrages ont été portés, enfin il y en a qu'un je crois qui a été porté au cinéma.
Oui, c'est un Taxi Mauve, voilà. Par Yves Boisset avec Philippe Noiret et Charles Trampling.
Que vous égratignez, vous n'êtes pas emballé, hein. Je ne l'ai pas vu, alors je dois dire que...
Je suis partagé. Michel Léon, lui, aimait bien le résultat. Il avait un peu collaboré au film. Mais moi, j'ai du mal à imaginer, effectivement, à me faire l'idée que Philippe Noiret incarne un héros déonien, comme on disait, qui ont une élégance, une espèce de fêlure, qui sont une virilité.
Alors qu'il paraît un peu plan-plan.
Oui, voilà. Bon, c'est un avis très personnel, mais bon, Philippe Noiret en héros déonien ou un héros fitzgéraldien, j'ai un peu de mal.
Oui. Et puis, bon, la télévision aussi, c'est emparé de son œuvre. Oui, alors, ce que je me dis, moi, c'est qu'effectivement, il a beaucoup voyagé. Et quand on lit la liste de ses voyages, c'est quand même énorme. Et il s'est installé, alors il s'est exilé, entre guillemets. Vous dites qu'il faisait des allers-retours à Paris, mais enfin, quand même, il vivait à l'étranger. En fait, ce choix, il a été dicté par quoi ? Le premier choix, ça a été la Grèce.
Ça a été un coup de cœur pour ce pays, parce que de toute façon, il a baigné malgré tout dans... Là aussi, on revient à sa formation maurassienne et gréco-latine. Il a baigné dans la civilisation, dans la civilisation grecque dès son enfance. Donc en Grèce, il est aussi... En Grèce et en Italie, il se sent vraiment chez lui. Et il trouve c'est ça qu'il y a de... Pour lui, l'Europe, la France et l'Europe, elles sont là. C'est le berceau de la civilisation, selon lui. Donc déjà, il y a eu ce plaisir-là. Et puis, comme on l'évoquait, la France des années 60, c'est pas tellement sa France à lui. Le général de Gaulle est au pouvoir, les blessures de la guerre d'Algérie sont encore béantes. Donc voilà, il décide aussi de mettre un peu de distance entre lui et son pays natal dans lequel il ne se reconnaît guère.
Pour les auditeurs, je préciserai qu'il était en Grèce 59 à 68, pas pendant la dictature des colonels.
Oui,
en fait,
oui.
Qui a commencé en 67, qui s'est terminé en 74. Il n'était pas à cette... Il dit quelque chose qui m'a intéressé en parlant du peuple grec, le peuple le moins nivelé qui soit.
Oui, parce que l'une de ces, c'est ça qui est fabuleux dans ses, les écrits qu'il a consacrés à la Grèce ou aux Irlandais avec un récit de la fin de sa vie qui s'appelle Cavalier passe ton chemin, c'est que de fait d'avoir vécu donc presque 10 ans en Grèce et ensuite plus de 30 ans en Irlande, il a développé évidemment une proximité, enfin il était quasiment aussi irlandais ou grec que les gens avec lesquels il vivait avec des gens auprès de gens très simples, les gens du peuple, et donc il a pu vraiment observer les mœurs, les mentalités, les façons de vivre de ces peuples-là. Il en a tiré des pages très fines, très belles, sans illusion, sans jamais idéaliser les gens qui l'entourent. Notamment pour les Grecs, il a parfois des remarques assez sévères sur leur manque de rigueur, enfin d'ailleurs des défauts qu'on leur reproche encore aujourd'hui, mais en même temps leur goût, comme les Irlandais, leur goût pour les histoires, pour les mythes, pour les légendes, voilà, et ça il adorait ces peuples-là.
Je crois que vous avez prévu, Christian Autier, une lecture qui concerne la Grèce, justement.
Oui, justement, un extrait donc du Balcon Spetsé, où Michel Léon écrit « Méditerranéen je suis devenu, méditerranéen je reste, hanté par un ciel et une mer qui parlent seul à mon imagination, croyant, peut-être naïvement, qu'ici seulement l'esprit divague. Illusion encore, mais illusion partagée par beaucoup, si je compte d'autres écrivains en quête d'un peu de ce souffle que dispense la Méditerranée, à nous remettre dans les conditions qui permirent à la Grèce, à l'Italie, d'être les sources du monde moderne, l'exemple incomparable et inégalé de deux civilisations mûres, avons-nous la chance de retrouver le fil perdu ? Ce que je sais de l'Italie, ce que je sais de la Grèce, c'est en tout cas qu'elles n'ont jamais déçu l'instinct qui se portait vers elles, qu'elles gardent une intarissable puissance de séduction pour l'achèvement du goût et offrent l'occasion d'une méditation interminable sur soi-même. Cela dit, je reconnais aux brumes de la mer d'Irlande ou de la mer du Nord un envoûtement qui, pour n'être pas encore dans ma nature, mais le sera peut-être un jour, attise les songeries et glisse en nous d'insatiables mélancolies. Voilà. Alors, ce qui est amusant, c'est que donc, ce texte est écrit en 1960 et il évoque l'Irlande qu'il ne connaît pas, il n'y a jamais mis les pieds, et il s'installera en Irlande à partir de 1969.
Oui, alors évidemment, peut-être qu'il n'avait pas tout à fait prévu que la Grèce, comme l'Irlande, un peu abîmée par le tourisme, va évoluer. Hein. C'est vrai que...
Oui, très vite.
La tourisme de masse.
Dès la fin des années 60, il voit les prémices du tourisme, et plus tard, parce que malgré tout, il gardera sa maison, il quitte la Grèce, mais il gardera sa maison, il reviendra juste dans les années 70 et 80. Oui. Et il vend définitivement sa maison de Spetsé en, je crois, 1985. Mais il a... Oui, il avait vu déjà, dès les années 60, que le tourisme commençait à gangréner un peu les paysages.
Oui. Alors, bon, là vraiment, notre temps imparti s'achève. On pourrait parler de la renaissance des Hussards dans les années 70. Il a son entrée à l'Académie française, une forme de réconciliation avec la France.
Oui, ça a été... pas quelqu'un qui briguait les honneurs, mais ça, l'Académie, ça, il a été particulièrement sensible. Et effectivement, il a vu que qu'il n'y avait plus de contentieux entre le pays et lui, que les institutions le reconnaissaient. Et ça lui a permis aussi, d'ailleurs, ce qui était amusant, c'est qu'à l'Académie française, il y avait aussi beaucoup d'éminents gaullistes, quelques lycéliers comme Maurice Druon, Alain Perfit et d'autres, et que ces gens-là ont cohabité en bonne intelligence.
Voilà, avec le temps. Donc... une personnalité, une vie bien remplie, une époque, un style, voilà tout ce qu'il nous apporte, non ?
Oui, c'est un très bel écrivain, et puis ses livres, on en a évoqué quelques-uns, mais il a eu une quarantaine de romans, récits, nouvelles... Il a touché des pièces de théâtre, il a touché à peu près tous les genres, et avec un bonheur quasiment égal. Il y a vraiment des livres merveilleux, les pages grecques, les pages irlandaises, au-delà des romans, sont des livres formidables. Et donc c'est vraiment un écrivain qu'on peut lire à tout âge, et son style justement, c'était un classique. Je disais un peu pour prendre des parrains prestigieux, j'allais dire la lignée Stendhal-Giono. Donc c'est une écriture qui ne se démode pas, il n'y a pas de tic d'écriture chez Michel Léon, c'est un français très classique et assez intemporel, donc ça donne à son écriture, je pense, un éclat qui n'est pas prêt de s'éteindre.
Et peut-être vous, Christian Autier, faites-vous partie des néo-hussards ?
Oui,
à l'histoire d'en juger. Un grand merci en tout cas. Je
merci
rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'une biographie de Michel Déon intitulée Les mondes de Michel Déon, écrit par Christian Autier et paru aux éditions Séguier. Merci, au revoir.
Merci. Thank you.